pas seule. Le Popo Podcast.
Mon expérience du deuil, elle est multiple. En termes de perte d'être cher, à savoir la mort, du coup, j'ai été confrontée au deuil très vite dans ma vie, puisque j'ai perdu mon grand-père à l'âge de 4 ans et demi. Il a été fauché par une voiture. Et en fait, je me souviens qu'à 4 ans et demi, j'étais tout à fait capable de comprendre qu'il ne reviendrait pas. C'était clair et net. Et c'était un gros choc. Ma mère m'a raconté il n'y a pas très longtemps, en tout cas, j'ai osé en reparler un peu avec elle. Elle m'a dit, mais tu savais, mais tu ne voulais pas y croire. Et t'as pété un câble, en fait. C'était injuste. Et en fait, elle m'a dit, t'as compris l'injustice de la chose. Et j'ai beaucoup été hantée par ce décès parce que bah, non seulement c'était mon grand-père et j'étais très proche de lui et il avait contribué à tout un pan de mon éducation, mais au-delà de ça, je me représentais la mort avec toujours lui en personnage principal de la mort. Donc parfois je me posais des questions, je me disais... qu'est-ce que c'est le pire? Est-ce que le pire c'est de mourir enseveli sous les briques d'une maison ou c'est mourir parce que la terre elle s'ouvre en deux? Et en fait c'était mon grand-père que j'imaginais, c'est pas moi, tu vois, c'était mon grand-père qui se faisait engloutir par les entrailles de la terre ou c'était mon grand-père qui se faisait ensevelir sous les briques d'une maison. Et c'était super perturbant et en même temps c'est un truc dont j'ai jamais vraiment beaucoup parlé à part quand j'ai commencé à vraiment parler du deuil il y a du coup pas très longtemps. Et je sais qu'après j'ai développé vraiment cette peur que les gens que j'aime reviennent pas. Donc quand mes parents partaient, j'étais tout le temps en train de pleurer, à me dire qu'ils revenaient pas. Je me couchais pas avant que j'entende la porte se fermer chez moi. Enfin voilà, il y avait plein de choses comme ça. Et au final, tu vois, c'est marrant, mais je me demande si j'ai vraiment fait le deuil de la mort de mon grand-père. Parce que ça a tellement été long comme expérience. Je me souviens encore que ça me faisait pleurer en sixième, tu vois. Et puis la mort de mon grand-père, ça a été aussi un peu... j'avais l'impression que c'était comme Jésus-Christ. Tu vois, on me parlait de 4 jours avant le décès de mon grand-père, un an après la mort de mon grand-père. Enfin, c'était vraiment, tu sais, cet axe historique absolument indéfectible. Donc ça, c'était... Je crois que c'est vraiment la première fois que j'ai été confrontée au deuil. Et finalement, c'est une forme de deuil qui m'a poursuivie très 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 longtemps. Et aujourd'hui, je suis... beaucoup plus tranquille avec ça, mais je suis pas sûre d'avoir vraiment traité l'information encore. Enfin, je sais qu'il est mort, mais j'en apprends toujours un peu plus, parce que mon grand-père est quelqu'un qui a vécu 10 vies en une, et parfois on en apprend toujours un peu plus, et il y a encore des choses qu'on découvrira probablement, parce que il y a des lettres dans une malle qu'on n'a jamais ouverte. Je pense que j'ai commencé à considérer d'autres situations que la mort après la mort de ma grand-mère, qui a été aussi un deuxième très gros choc et très gros bouleversement qui s'est passé du coup en fin 2018, où là mon expérience du deuil, quand j'ai appris qu'elle allait mourir, c'est la première fois où je me suis dit bon, je veux pas rester seule avec cette expérience et je vais avoir besoin d'en parler, et je vais avoir besoin d'en parler vite. Parce que c'est trop brutal, c'est trop injuste, c'est pas comme ça que ça devait se passer. Là, ça a été vraiment, je dois prendre le taureau par les cornes et je peux pas répéter ce que j'ai remué et ruminé avec le décès de mon grand-père. Où au final, finalement, tout le monde dans ma famille a été un peu les acteurs, les dépositaires et les... comment dire, les processeur de ce truc de genre 10 jours avant la mort de ton grand-père, 15 ans après la fin, c'est marrant parce que ça me paraissait tellement normal, presque comme si la naissance de mon frère, qui avait eu lieu un mois avant le décès de mon grand-père, était presque oubliée, tellement c'était un événement fort. Je vais pas répéter du tout ce qui s'était passé pour mon grand-père et j'avais vraiment besoin d'en parler. Ça, je me souviens l'avoir formulé à mes parents directement en partant de l'hôpital. Je leur ai vraiment dit, là, je vais pas pouvoir rester comme ça, il va falloir que j'en parle. Voilà, je me suis mise en recherche de groupes de parole, parce que je voulais pas avoir affaire à des psys. parce que ça me semblait pas du tout approprié. Et j'avais envie de parler avec des gens qui avaient vraiment connu la même chose, ou alors qui avaient connu une situation similaire et qui allaient en parler différemment, avec un vécu différent. Et au final, je suis arrivée dans le groupe de parole où on a été, et je sais que la première chose que je me suis dite, c'est « purée, c'est tellement bien qu'il y ait des jeunes comme moi qui ont déjà fait une partie de leur deuil et qui te montrent que eux, ils avancent toujours et que c'est pas terminé. » Et alors que moi j'arrivais complètement anéantie. Et c'est beau en fait cette passation. C'est magnifique parce qu'aujourd'hui c'est presque mon rôle aujourd'hui dans ce groupe que je fréquente, puisque je suis la plus ancienne maintenant. C'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant pour les autres et c'est tellement intéressant pour toi. Je crois que c'est vraiment après le décès de ma grand-mère et après avoir parlé aussi de ce que je ressentais et parlé du deuil que j'ai compris que il y avait d'autres formes de deuil, que quand il y avait une rupture amoureuse ou amicale, c'était aussi une forme de deuil, que quand on quittait un travail qui nous avait apporté énormément et que tu dois le quitter par obligation ou simplement parce que tu as trouvé autre chose et que tu y étais bien, c'est aussi une forme de deuil, et que voilà, la mort n'a pas la suprématie sur le deuil. J'ai aussi fait face à la légitimité devant le deuil, où j'ai pris beaucoup de temps à me sentir légitime d'être en deuil par rapport au décès de ma grand-mère. Et je crois qu'encore aujourd'hui, parfois, j'ai une sorte de pudeur à quand je me retrouve à parler du deuil de ma grand-mère et que je vois qu'en face de moi, c'est des personnes qui ont perdu leur père ou leur mère, parfois les deux, ou leur sœur. J'ai l'impression de plus être légitime de parler de la mort de ma grand-mère. Et je suis infiniment heureuse qu'il y ait toujours une personne bienveillante qui me dise... C'est le lien qui compte en fait, c'est pas la position de la personne dans la famille. Et ça, c'est très rassurant quelque part, parce que je suis aussi légitime d'avoir mal parce que j'ai perdu ma grand-mère que d'avoir mal parce que quelqu'un a perdu un de ses parents, son frère, sa sœur, que sais-je. Et donc on parlait des animaux de compagnie, t'es aussi légitime d'être très triste quand t'as perdu ton animal de compagnie si le lien que t'avais avec lui était très fort. Déjà, à mon avis, il y a autant de façons de faire son deuil qu'il y a de personnes. Et qu'il y a de deuil aussi. Parce que, tu vois, chaque personne dans une vie vit plusieurs deuils différents. Le deuil que j'ai dû affronter par rapport à mon grand-père est très différent de celui que j'ai affronté par rapport à ma grand-mère. Et très différent aussi des quelques deuils que j'ai dû affronter face à certaines ruptures amicales ou amoureuses. Je crois que faire son deuil, ça veut pas forcément dire ne plus pleurer. Ça veut pas forcément dire ne plus penser à la personne, au contraire. Et je pense que ça veut pas non plus dire que t'as plus besoin d'en parler. Je pense que faire son deuil, c'est peut-être avoir passé peut-être une étape où la douleur, elle est moins grande. Tu parles de la personne avec le sourire, et parce que t'as envie d'évoquer des moments que t'as vécu avec la personne. Que ce soit des moments joyeux ou tristes, en tout cas que... Peut-être que t'as envie de faire vivre la personne à travers la vie qu'elle a eue plutôt que de parler de la douleur que la mort t'a infligée. En tout cas, par rapport à ma grand-mère, c'est un peu comme ça, je crois, que je l'ai vécu. Que j'avais envie de faire vivre son souvenir. Peu importe le moment, parce que une relation est pas tout le temps super positive, hein. J'ai eu des disputes avec ma grand-mère, j'ai été parfois en très grand désaccord, j'ai trouvé injuste et en même temps j'ai trouvé génial, et ça a été une alliée dans certains moments de vie qui a été absolument nécessaire. Mais je me souviens de parfois où je la trouvais profondément injuste, et d'autres fois où je l'ai aimée inconditionnellement, et ces moments-là, quand je sens que parfois j'ai envie de les partager, et que ça me fait plus forcément pleurer, mais que... Parfois ça peut me faire pleurer, mais c'est pas ça l'important au final. L'important, c'est que quand j'en parle, la douleur, elle est moins forte. Et j'ai vraiment plus envie de livrer quelque chose que j'ai envie de raconter sur elle, plutôt que de dire elle est décédée à l'hôpital suite à une erreur médicale, c'est très injuste, parce que j'aurais eu envie de faire un procès à l'hôpital. Mais cette colère, en fait, elle s'est beaucoup, beaucoup apaisée, et peut-être que ça fait partie de la façon de faire mon deuil. Parfois, je le remarque, je parle encore d'elle au présent, et Et en même temps, je sais qu'elle est plus là et c'est ok. Parfois, je me réveille et je me dis, oh, ça fait longtemps que je l'ai pas appelée. Et puis, je me dis, mais non, elle est décédée. Et en même temps, au final, je sais qu'une partie du deuil a déjà été faite. Et peut-être qu'on fait son deuil toute sa vie. Parce que, comme dit, j'ai encore des choses à découvrir sur elle. Cette fameuse malle avec des lettres la concerne aussi. Parce que c'était la femme de mon grand-père qui est décédée, qui a eu une vie très fusionnelle, très complexe, pleine de secrets, pleine d'aventures. Donc de toute manière, j'aurai encore des choses à découvrir et de toute manière, il y aura encore des larmes qui vont être versées, il y aura encore mon cœur qui va sauter et rater un battement, il y aura encore des moments où ma voix va se briser, mais pour autant, je sens en moi que j'ai fait une partie du deuil. Il y a des périodes comme ça où j'y pense même pas. Bah le deuil, c'est pas linéaire, quoi. C'est tant que j'avance dans la vie, que je vis mes expériences et que je vis, en fait, que je vis... Ben, le deuil se fera. Et je sais qu'on dit beaucoup de moi que je suis résiliente. Je crois que c'est vrai que ça me définit pas mal. Parce que j'ai vraiment eu une vie dans sa globalité assez difficile. J'ai toujours ce moteur en moi où même quand ça va si mal, je me dis que ça ira bien. Il y a un moment où ça ira bien. Et j'avais été tellement anéantie par le décès de ma grand-mère. Pourtant, j'avais cette énergie en moi où je savais que ça irait à un moment. Ça irait à un moment et j'ai essuyé une très grosse dépression très très longue avant le décès de ma grand-mère que j'avais combattue et dont j'étais sortie juste avant que ma grand-mère décède, quelques mois avant. Et je me souviens de m'être fait cette réflexion quand elle est décédée où j'étais vraiment au 36e dessous et pourtant je me disais mais je suis pas en dépression. C'était impressionnant cette capacité que j'avais à séparer les deux choses. Oui, j'étais anéantie. Oui, c'est terrible ce qui s'est passé, c'est injuste et c'est important. C'est important et c'est grave. Et en même temps, au fond de moi, je savais que j'étais plus en dépression. Ça irait et que j'allais sortir de cette expérience d'une manière ou d'une autre. Pas forcément plus forte, enfin, c'est vraiment à la mode de toujours se dire qu'on va sortir de chaque expérience plus forte, mais c'est pas ça en fait, c'est j'allais sortir de cette expérience avec peut-être plus armée et en ayant mûri. Peut-être que ça veut dire ça, être plus forte pour moi, mais moi je me vois pas comme une super combattante parfois. Je me vois souvent assez faible et pourtant j'arrive à m'en sortir et au final je pense que je suis beaucoup plus armée que parfois, que parfois je ne le pense de prime abord. Et quand je vois le chemin que j'ai parcouru par rapport au deuil, je suis super fière de moi. Peut-être que ça veut dire ça pour moi, être forte. Je suis fière du chemin que j'ai parcouru, je suis fière de la manière dont j'ai géré le deuil de ma grand-mère. Parce qu'il y avait zéro mode d'emploi. Et il y a zéro mauvaise façon de gérer un deuil. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. J'ai exprimé le besoin d'en parler et je suis allée au bout de cette idée et je me suis battue pour ça parce que j'ai déjà entendu cette réflexion du bah oui bon bah d'accord hein, il faut le temps au temps. Bah ouais mais si j'avais peut-être pas envie de ce temps au temps, moi j'avais envie d'en parler, j'avais envie de partager, j'avais envie d'échanger, j'avais envie de crier, j'avais envie de pleurer, j'avais envie de crier l'injustice et la douleur, et j'ai trouvé un cercle bienveillant où le faire et un cercle où guérir de cette douleur. Voilà. Aujourd'hui au final je prends plus ces larmes comme de la douleur profonde. Je pense qu'il y a toujours une douleur parce que c'est quand tu perds quelqu'un qui t'est tellement cher, forcément qu'il y a une partie de toi qui aimerait encore l'avoir à tes côtés. Enfin, j'imagine, ça dépend des relations en fait. Non, c'est vrai, ça dépend des relations. Ma grand-mère, je pense qu'il y a des moments où j'aimerais encore l'avoir à mes côtés. Elle me manque. Mais c'est plus aussi intense qu'avant. Et au final, quand les larmes coulent, comme elles ont coulé il y a quelques semaines encore, à un moment, ma mère l'évoquait. Je pense que c'est presque aujourd'hui plus des larmes de souvenir. Je me souviens que je l'ai aimée, je me souviens que je l'aime toujours. C'est toujours ma grand-mère. Et oui, ça me fait quelque chose de l'évoquer. Oui, ça me fait quelque chose d'entendre parler d'elle. Oui, j'aimerais qu'elle soit là à certains moments de ma vie. Et en même temps, je crois que j'ai accepté aussi. J'ai accepté qu'elle soit plus là, j'ai accepté le fait que je sais aussi me débrouiller sans elle. Peut-être que c'est ça pour moi faire mon deuil, c'est que j'ai compris que j'étais aussi capable sans elle, parce que ça a été un bras droit très très important dans ma vie. Elle m'a aidée sur plein de points et c'était une femme accomplie dans tous les sens du terme et dans tous les domaines. Et je me suis sentie perdue quand elle est décédée. Je me suis vraiment sentie perdue parce que j'avais l'impression que j'étais plus capable de choses parfois très pragmatiques, tu vois, et très très concrètes. Elle m'avait appris à coudre. J'ai l'impression que j'avais perdu ce talent de savoir coudre sans elle. Alors, on s'entend des travaux de retouche et de réparation parce que j'aimerais beaucoup coudre des vêtements, mais ça j'ai pas... Ça, je regrette de ne pas avoir appris avec elle. Mais j'apprendrai. C'est pas grave, j'apprendrai de moi-même. Et c'est justement des réflexions comme ça, tu vois, où par exemple, j'ai toujours été bonne à l'école, mais derrière, elle vérifiait mes devoirs, et puis elle vérifiait mes dissertations, et puis elle venait corriger quand certaines formulations n'étaient pas terribles. Et quand elle est décédée, je me suis dit, mais purée, mais je vais plus être capable de rien. Qui va me relire? Qui va retrouver les pensées exactes que j'ai pas réussi à formuler exactement comme je le voulais par écrit? Parce qu'elle me comprenait à ce niveau-là, elle me comprenait très bien. Et ouais, je crois que j'étais vraiment perdue sans elle. Et aujourd'hui, je me rends compte que je suis capable sans elle. Et ça, c'est... Je crois que c'est la première fois en plus que je le dis, que je l'évoque comme ça. Donc peut-être que pour moi, faire mon deuil, c'est d'accepter de ressentir aussi... tout ce que je ressens aujourd'hui par rapport à elle, ces moments parfois où je pense pas à elle, ces moments où parfois je pleure, ces moments où je l'évoque avec le sourire, ces moments où elle me manque, et aussi ces moments où je me rends compte que je suis capable, même depuis qu'elle est plus là, et qu'en fait j'ai toujours été capable. Peut-être que j'ai plus confiance en moi. Parfois j'ai l'impression que je trouve les mots juste plus facilement. Je crois que je sais aussi mieux m'entourer. Je pense que ça a énormément participé au fait de mieux s'entourer, parce que le nombre de personnes qui m'ont dit « Ah, oh, elle avait quel âge ta grand-mère ? 87 ans ? Bon, ça va, elle a bien vécu. » Oui, bah elle aurait pu encore en vivre 40 en fait. Enfin, tu vois, c'est ça, je l'ai beaucoup entendu. Ou alors les gens qui savent pas comment aborder les choses, alors du coup, ils veulent te dire un truc. Moi, j'ai entendu cette phrase à l'enterrement de ma grand-mère, ah, ta grand-mère, elle va tellement nous manquer, je la revois encore marcher avec son grand manteau rouge. D'ailleurs, je me suis vraiment dit, mais c'est marrant parce qu'elle a jamais eu de manteau rouge. Donc, enfin, il y a eu des trucs comme ça où je me suis vraiment posé des questions. Qu'est-ce que veulent les gens? Est-ce que c'est une façon à eux de combler une gêne? Mais dans ce cas-là, je préfère que tu viennes pas me parler. mais le processus a été long. Et au final, j'ai su, je pense, mieux m'entourer. Peut-être que si ça n'a pas été un déclencheur, en tout cas, ça a énormément contribué à ce que je m'entoure au mieux et à ce que je m'entoure de gens qui sauront être bienveillants, même quand ils ne comprennent pas le deuil. Ou alors de gens qui ont vécu un deuil très différent et qui ne vont pas forcément juger. J'ai nombre de personnes autour de moi qui ont des grands-parents. C'est des grands-parents qui voient une fois à Pâques, une fois à Noël. Ils n'ont pas ce lien que moi j'avais avec les miens, et pourtant ils jugent pas, ils n'ont jamais jugé, ils m'ont jamais expliqué qu'un grand-parent c'était moins important qu'un parent, parce que ça on peut aussi l'entendre, donc ça a dû contribuer à ça. Et puis, quel changement, j'ai toujours dû me débrouiller seule, sur plein de plans. C'est marrant parce que je pense que si mes parents écoutaient ça, ils se sentiraient un peu offusqués parce qu'ils pensent qu'ils m'ont beaucoup accompagnée. Au final, je me suis toujours sentie très seule et très incomprise. Et du coup, je pense que j'ai dû redoubler encore d'énergie après le décès de ma grand-mère pour vraiment ne pas sombrer et continuer d'avancer et continuer à me montrer capable, vraiment. Et de me prouver à moi-même que j'étais capable. J'ai encore en tête un très gros dossier que j'ai dû rendre, deux très gros dossiers que j'ai dû rendre l'année dernière lors de ma troisième année de licence, qui ont clôturé ma licence, et que j'ai rédigé entièrement toute seule, dans lesquels je me suis beaucoup investie, parce que ça m'a vraiment vraiment beaucoup plu. Et puis je me souviens avoir eu cette réflexion après les avoir rendus, après avoir obtenu des notes vraiment très bonnes. Franchement, j'ai vraiment fait du mieux que je pouvais à ce moment-là. Et je crois que j'aurais fait tout aussi bien que si j'avais été accompagnée par le regard très pédagogue et très précis de ma grand-mère. Et j'ai vraiment senti une forme de fierté, où je me suis vraiment rendu compte que tout ce temps-là, j'avais pas été complètement portée. J'avais été, j'avais été aidée, j'avais peut-être été supervisée, mais que j'avais toujours été capable. Et de le constater, alors de façon très concrète, avec des notes, ça a été, je pense, une révélation. Parce que j'ai tellement eu souvent ce syndrome d'infériorité et ce fameux syndrome de l'imposteur dont on entend beaucoup parler, mais qui est très vrai aussi, hein, qui mérite d'être mentionné quand vraiment on le ressent, et on est quand même beaucoup à le ressentir. Et puis parfois cette non-légitimité à prétendre à une filière ou à prétendre à un poste parce que peut-être que avant on avait été aidé. Enfin voilà, c'est des exemples comme ça, mais au final, c'est comme si je m'étais prouvée à moi-même depuis pendant tout ce parcours du deuil et depuis que je sens que j'ai aussi franchi une étape, que j'étais autonome dans plein de choses. Et surtout que je me faisais confiance, pas seulement j'ai plus confiance en moi par rapport aux autres, mais je me fais confiance par rapport à maintenant je sais exprimer ce dont j'ai besoin, ce que je veux, ce que je ne veux pas. Et c'est beaucoup plus clair en fait, depuis que j'ai fait ce cheminement du deuil. En tout cas ce cheminement du deuil récent. C'est beaucoup plus clair. Et après je l'apprends aussi de plein de relations différentes. Et c'est évident, ça contribue. Et le deuil aussi de certaines relations amicales, amoureuses, m'ont aussi fait évoluer là-dedans et m'ont aussi permis de comprendre ce que je voulais en relation et ce que je ne voulais pas. Toutes relations confondues. Et aujourd'hui, quand je sais que je ressens quelque chose, que je l'exprime intérieurement ou que je l'exprime à voix haute pour moi-même ou pour les autres, je sais que c'est pas sorti de nulle part. Et je sais que je peux me faire confiance et que si je le ressens comme ça, et ben, c'est que c'est comme ça. Et ça, je pense que j'ai vraiment appris sur le tas, en fait, avec le deuil, parce que je me souviens de moi tellement conciliante avec tout, tellement prête à accepter plein de choses, parfois inacceptables, parfois juste que je ne voulais pas, et qui n'avaient pas forcément énormément d'incidence, mais qui me convenaient pas. Et aujourd'hui, j'ai tellement plus de force et à dire non, ou à exprimer que certaines choses me stressent, ou alors à l'inverse, je sais aussi exprimer quand ça me va, quand je suis heureuse, quand j'aime certaines choses, c'est beaucoup plus fluide. Et si je l'ai toujours eu au fond de moi, ce caractère où tout doit passer et il n'y a quasiment pas de filtre, tout en étant très respectueuse des autres, en essayant en tout cas de l'être au maximum, je sens que je sais bien plus l'exprimer depuis qu'on m'a offert la possibilité de parler comme je voulais et sans filtre de ce que je ressentais à la mort de ma grand-mère. Donc je pense que c'est un des principaux changements. Et je dirais que ce qui en découle, c'est que aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un peu plus de voix qui s'élèvent par rapport à l'orientation dans la vie des jeunes actifs, des jeunes étudiants. J'ai aussi beaucoup moins peur de dire je prendrai pas la voie que tout le monde prend, à savoir bac, licence, études, ou alors prépa, grande école, grande entreprise, stage. Aujourd'hui, je pense que j'ai un regard bien plus bienveillant aussi sur mon parcours, qui est assez atypique et qui continue de l'être. Et pour autant, je pense qu'il aurait pas forcément énormément plu à ma grand-mère, et en même temps, je pense qu'elle l'aurait aussi respecté, parce qu'il est mûri, il est réfléchi, et j'ai plus peur de dire aux gens qui seraient pas d'accord que c'est ma vie, que ça me regarde moi, et que je sais que c'est bon pour moi. Donc c'est un gros changement, ça aussi. Mais c'est quelque chose que... Finalement, c'est quelque chose qui est encore très récent. Mais je sens vraiment que ça découle de ça, de cette opportunité de communiquer sur ce que je ressens. Et ça a commencé au deuil en fait, parce que les quelques expériences de thérapie que j'avais avant, c'était tellement pas ça. Fais face à quelqu'un qui a peut-être pas vécu ce que tu as vécu et ce pourquoi tu viens le voir, qui te donne des médicaments ou pas, que tu payes, qui te donne pas son point de vue, en tant que quelqu'un qui a vécu quelque chose. Et au final, de pouvoir communiquer et exprimer vraiment en toute liberté ce que je ressentais par rapport au deuil au sein d'un groupe de parole où tout était permis, sauf de se juger entre les uns les autres, ça a été libérateur. Ça a été libérateur et je me suis jamais sentie autant comprise de toute ma vie, alors qu'on avait toutes des expériences très différentes et en même temps, on se rejoignait dans plein de choses. Je pense que ça m'a appris la liberté d'expression aussi. Le moment auquel je pense instinctivement, c'est le moment où on m'a annoncé que ma grand-mère allait décéder à l'hôpital. Je pense que ça a été le début de tout le processus. Parce que c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit j'ai besoin d'en parler. Ça a été un choc parce que la veille, on nous a annoncé qu'elle allait sortir de l'hôpital et qu'elle était vraiment entrée pas longtemps. Elle était vraiment entrée pour... Une petite infection pulmonaire qui était censée vraiment passer. Et la veille de l'annonce, on nous a dit qu'elle allait sortir de l'hôpital dans les jours à venir et qu'on allait la placer en maison de repos avant qu'elle regagne son appartement. Et ensuite, le lendemain, j'ai passé mes examens. J'avais des derniers examens de mon premier semestre. Et l'après-midi, ma mère a envoyé un message à mon père. Vous devez venir. C'est important que vous soyez tous là. Donc faut pas être Einstein pour comprendre qu'il y a un problème. Et on est arrivé et je me souviendrai toujours, c'était avant le Covid. La femme médecin qui nous a reçus portait un masque. Elle nous a pris vraiment... Dans mon souvenir, c'était vraiment 2 minutes. Peut-être que c'était 5, mais en tout cas, c'était pas un long moment. Pour me dire, écoutez, elle décompense, elle va mourir. Alors, c'est bien parce que décompense, moi, je sais pas ce que ça veut dire. Et en fait, j'étais offusquée parce que je me suis dit, elle pourrait enlever son masque, en fait, pour nous parler. Parce que je sais même pas à quoi elle ressemble, en fait, celle qui annonçait la mort de ma grand-mère. Et j'ai été vraiment outrée de ça. Alors, je sais bien, c'est les soins palliatifs, il faut quand même être... faire attention avec les microbes, etc. Mais très franchement, elle aurait pu se mettre loin de nous et enlever son masque. Moi, ça m'avait... c'est quelque chose qui m'avait profondément choquée parce que j'ai trouvé ça très très inhumain. Et au final, je pense que c'est aussi en partie pour ça que j'ai très très mal vécu cette période de Covid. Ça a été profondément inhumain, il n'y avait aucune expression faciale qui montrait sa compassion. Et il n'y avait rien d'affect qui était en jeu. Et comme si c'était son quotidien, et c'est probablement son quotidien simplement, c'est pas le quotidien de tout le monde qui vient, c'est pas le quotidien de chaque famille qui est là, chaque famille est là pour des raisons différentes, et si tu vois 15 familles qui perdent quelqu'un dans la journée, ben ça veut pas dire qu'elle perdent 15 personnes dans la même journée, tu vois, et j'ai trouvé ça, franchement je dirais comme ça, j'ai trouvé ça nauséabond. J'ai été en colère, j'avais envie de lui hurler dessus, je me souviens même de lui avoir hurlé dessus. De lui avoir dit, mais vous vous rendez compte en fait comment vous nous annoncez la chose, enfin, c'est pas juste une vieille personne comme ça qui était vaguement dans notre famille ou qu'on voyait comme ça une ou deux fois par an, enfin, c'est ma grand-mère, on la voyait toutes les semaines, elle nous a élevés en fait, enfin, vous vous rendez pas compte en fait de l'impact que ça a d'annoncer la chose comme ça, et je me souviens qu'elle était là, voilà, elle va mourir quoi, et c'était tellement... détachée, je dirais même pas que c'était méchant, j'étais désespérée. J'étais désespérée parce que j'étais en colère contre elle, et je me souviens que je voulais même pas voir ma grand-mère. Je voulais même pas la voir parce que du coup j'allais la voir diminuer, donc décompensée, j'ai compris qu'en gros son corps ne marchait plus en fait, hein. Son corps était en train de mourir à petit feu, et qu'il n'arrivait plus à combattre en fait ce qui n'allait pas. Et que c'était soudain, que c'était normal, parce que c'était l'âge, et que voilà, il fallait surtout pas la réanimer si jamais son cœur s'arrêtait, parce qu'elle pouvait risquer de devenir un légume. Et moi, bêtement, j'avais vu Dr House, et je me suis dit, on va la mettre en coma artificiel le temps qu'elle se rétablisse, parce que ça me paraissait logique, et en même temps, elle me disait, non, ça sert à rien, elle est vieille. Enfin, j'étais outrée. Ouais, je crois que c'était ça, vraiment, j'étais outrée. J'étais outrée de son comportement, j'étais outrée de la façon dont elle gérait les choses, et je me suis demandé où étaient les humains en fait dans ce service, parce que j'avais l'impression de faire face à un robot. Et voilà, ça c'est un moment qui m'a profondément marqué, et c'est vraiment à la suite de ça, je me souviens être rentrée dans la voiture après avoir vu ma grand-mère, qui était un moment horrible au final. Je n'efface pas les souvenirs, mais j'essaie de m'en rappeler le moins possible parce que ça a été très traumatisant, et qu'elle a eu des paroles comme dans des bouffées délirantes qui ont été extrêmement blessantes, très dures à entendre. Et je lui en veux pas du tout. Hein. Je n'ai aucun sentiment négatif par rapport à elle, ce qu'elle a pu dire, mais je l'ai très très mal vécu, n'empêche, parce que c'était une violence inouïe et c'était très inattendu. En gros, elle a exprimé le fait que c'est comme si elle allait pas nous manquer, qu'elle allait de toute façon mourir seule et que... c'était injuste que ça se passe comme ça, mais que... je sais pas, elle a eu cette phrase très étrange où elle a dit « Tout ça, c'est que des mensonges. » Et comme ça a collé avec le fait qu'on lui a dit qu'on était là et qu'on l'aimait, quelque part, je crois qu'il y a une partie de moi qui espère qu'elle a pas entendu et que ça faisait référence à autre chose et qu'elle pensait à autre chose. Et en même temps, c'était terrible à entendre parce qu'il y a aussi une possibilité que ça ait coïncidé. Je sais pas ce qui lui avait pensé à ça, mais ça a été très traumatisant. Et donc, ces deux événements, en fait, conjugués ont vraiment instauré le besoin en moi d'en parler, et d'en parler très vite. Et ensuite, un autre moment marquant, je dirais la première fois où je suis arrivée au groupe de parole, de trouver ce lieu tellement ouvert, bah on le dit pas assez souvent, gratuit, et tellement, tellement libre au pouvoir parler de ça, où je pouvais parler de ce que je voulais, je pouvais donner le nom de ma grand-mère ou pas, je pouvais dire ce qu'elle avait fait ou pas, je pouvais juste pleurer, c'était ok en fait, tout était ok. Il y a un moment où j'ai beaucoup rêvé de ma grand-mère, malade ou pas malade, des moments où elle me prenait dans ses bras, elle me disait que tout allait bien, qu'elle allait mieux, qu'elle se sentait mieux. C'est marrant, mais je suis devenue bien plus spirituelle après ces rêves-là que je ne l'étais avant, parce que j'avais l'impression qu'elle me rendait visite. Et un jour, c'était un peu moins d'un an après son décès, j'ai rêvé d'elle et de mon grand-père. Mon grand-père, dont j'avais quasiment jamais rêvé, et ils étaient ensemble. Et c'est comme s'ils s'étaient retrouvés. Et ça a été très marquant parce que quand je me suis réveillée, j'avais un sourire tellement profond et une joie. Interne qui était je me sentais pleine de chaleur et qu'on croit à l'au-delà ou pas, c'est même pas le paradis, c'est pas ça, mais il y a eu une partie de moi où je me suis dit ouais, ils se sont retrouvés, ils sont heureux et ils sont bien et c'est calme et ils sont à l'abri, et même si ça n'existe pas, le fait d'y avoir rêvé, de l'avoir pensé, et ce sentiment vraiment de bonheur diffus et qui est resté en plus longtemps, et quand j'en parle c'est vraiment une bonne expérience, c'est vraiment un souvenir qui est très émouvant, mais qui est très beau. Ouais, ça a été un moment très très marquant aussi. Alors, comment je vois ma propre mort? Oui, j'ai toujours eu cette croyance que j'allais mourir jeune. J'ai toujours cru que... Je sais pas si... J'ai pas d'âge défini, mais j'avais l'impression que atteindre les 40 ans, c'était vraiment inimaginable. Je me disais pas, je vais mourir à 27 ans comme les stars du rock, mais tu vois, c'était vraiment une certitude. J'allais pas faire le long feu, qu'au final j'avais déjà vécu une énorme partie de ma vie. À l'époque où ça allait vraiment très très mal, j'avais vraiment l'impression que j'allais plus vraiment durer. Et que j'allais avoir très peu d'impact sur mon entourage, très peu d'impact dans ma propre vie. Enfin, j'avais l'impression d'être un personnage tellement secondaire de ma propre vie que j'avais l'impression d'être insignifiante. Et je me souviens encore qu'il y avait des moments où j'espérais vraiment que j'allais m'effacer. Voilà, c'était un peu le moment de déprime, mais tout ça pour dire que tout ce qui a découlé de très positif de ce deuil, en particulier donc du deuil de la mort de ma grand-mère, à savoir le fait d'être, de savoir m'exprimer, de me rendre compte d'être capable, etc., etc., a fait naître en moi un sentiment d'envie de vivre et de rage de vivre tellement intense que même si j'ai très peur de la vieillesse, j'ai plus peur de la vie, j'ai plus peur des difficultés de la vie. Évidemment que j'aimerais vraiment que là les difficultés s'arrêtent, et en tout cas les malheurs, on va plutôt dire ça, les malheurs s'arrêtent pour de bon. Personne n'a envie de vivre des malheurs, et moi je l'estime vraiment, vraiment pour ceux qui me connaissent, pour toi qui me connais, avoir eu ma dose. Mais j'ai une rage de vivre qui s'est déclenchée, où j'ai envie vraiment de me retrouver là où je dois être. Et là où je dois être, c'est dans ma propre vie, et c'est actrice principale de ma propre vie. Pas actrice, non, parce que je joue pas ma vie, je la vis en fait, littéralement, donc personnage principal de ma propre vie et de ma propre histoire. Et du coup, ma mort, en tout cas, je l'envisage plus aussi jeune. Disons que c'est un peu bateau, mais je crois que si je devais mourir dans pas longtemps, j'aurais beaucoup moins de regrets, ou quasiment plus, comme j'aurais pu en avoir avant. Parce que j'ai tellement évolué, j'ai tellement travaillé sur moi, à me faire du bien, à m'entourer de bonnes personnes, à faire les bons choix pour moi, à m'écouter très très fort, à vivre une vie beaucoup plus saine, entourée de gens beaucoup plus sains, avec une écoute de moi-même et une bienveillance de moi-même, qui est aux antipodes de ce que je vivais encore il y a 2 ans, et même encore il y a quelques mois, au final, l'évolution elle est toujours en cours. Et si j'ai eu plusieurs fois envie de mourir, c'est marrant parce qu'au final, j'étais jamais passée à l'acte, parce que je pensais aux gens qui m'entouraient, notamment à ma grand-mère qui était encore en vie à l'époque où ça allait très 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 mal pour moi. C'est marrant parce que je pensais à mourir et puis ce qui m'arrêtait c'était les vivants. En tout cas j'ai plus envie de mourir, j'ai envie de vivre, j'ai envie de respirer à plein poumon. Et je souhaite que si les gens qui me perdent un jour ont besoin de s'exprimer, ils puissent le faire en toute sécurité, en toute liberté. C'est marrant, je n'ai jamais dit ça de toute ma vie. Parce que je l'avais même jamais pensé, mais c'est vrai. Je souhaite que les gens puissent faire leur deuil comme moi j'ai eu le droit de le faire, comme moi je me suis battue aussi pour le faire. et de la manière qui leur conviendra à eux, parce que peut-être que ma manière à moi n'est pas la bonne. Enfin, pour eux en tout cas, je veux dire. Mais je suis sûre et certaine qu'elle a été la bonne pour moi. Je regrette rien en tout cas de la manière dont j'ai fait mon deuil, et peut-être que ça apporte aussi cette plus grande sérénité face à ma propre mort. Peut-être que ce que je voudrais dire, c'est que je veux pas faire le deuil de ma vie pendant que je suis encore vivante. Parce que j'ai encore toute une vie à vivre. Et même si elle s'arrête la semaine prochaine, ben j'ai encore... Enfin, je le souhaite évidemment pas, parce que j'ai encore plein de choses à vivre, mais alors j'aurai toute une semaine pour la vivre à plein régime. Et c'est même pas tant que j'ai pris conscience de l'importance de la vie, mais j'ai pris conscience de l'importance de ma propre vie. Et peut-être aussi de l'impact que j'avais sur les autres et sur mes proches. Et peut-être de la personne que je suis pour les autres. Une amie, une sœur, une fille, une petite fille, une amoureuse, une confidente, une partenaire de lecture, je ne sais quoi, mais peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que j'ai pris conscience de ma propre vie à travers tout ça, et j'ai très peur de la mort des autres. Je pense que j'aurais aussi peur de mourir. Ça m'a pas rendue insensible face à ma propre mort, hein. J'ai toujours peur de mourir. C'est toujours quelque chose qui me convient pas. Aujourd'hui, finalement, qui m'a jamais vraiment convenu, parce que quand j'avais envie de mourir, je l'ai jamais fait. Je suis jamais passée à l'acte, j'ai toujours imaginé. J'estime que si je l'ai pas fait, c'est pas par manque de courage, c'est parce que cette solution ne me convenait pas. Mais voilà, je parle vraiment de ma propre expérience face aux envies suicidaires, hein, pas du tout... Ça ne concerne que moi, en tout cas, ce que je suis en train de te dire là. Ouais, ma relation avec ma propre mort... j'ai toujours peur de mourir. Aujourd'hui, je pense que je souhaite que ce soit le plus tard possible. Et je souhaite mourir heureuse. Ouais, je crois que c'est ça. Je souhaite mourir heureuse. Je comprends ce que je vis, je comprends ce que je ressens, et puis surtout, j'ai toujours su écouter et intégrer ce que les autres me disent, mais je crois que ça m'a aussi appris, tu sais, pas seulement à écouter, mais à profondément porter mon attention sur ce que les autres aussi me disent. Mais après, en fait, moi, ça m'a permis aussi de me retrouver sans filtre, et si je parle beaucoup, c'est peut-être aussi parce que, justement, j'ai plus de filtre. Et au final, ça m'a tellement libérée à sortir de moi. Là, j'arrive à les sortir. C'est hyper thérapeutique aussi, tu vois, de pouvoir le flot de pensée, tu vois, de pouvoir l'exprimer d'un seul jet. Ou pas, mais voilà. Principal changement aussi, je dors pas forcément très bien, mais je dors quand même beaucoup mieux depuis le deuil. Ce qui est très étrange, mais après coup, hein, évidemment, après avoir... un peu fait son deuil et d'avoir vraiment communiqué et d'avoir pris le temps et le recul nécessaire sur la situation, mais globalement je dors quand même beaucoup mieux, et quand j'arrive pas bien à dormir, je sais que ça va aller mieux de toute manière aussi. Quand ma grand-mère, on m'a appris qu'elle allait décéder, j'ai très très mal dormi, je dormais pas, j'étais pas fatiguée, mais j'avais un manque de fatigue après qui s'est ressenti énormément, et j'ai été très très angoissée, très très et voilà, je dormais pas, et ça a duré un bout de temps, bah, jusqu'à ce que j'ai le droit de m'exprimer là-dessus. Donc ça a duré je dirais à peu près 3 mois, et puis après, au moment où j'ai commencé vraiment à pouvoir en parler, j'ai commencé à mieux dormir. Alors pas forcément, c'est pareil, c'est pas linéaire, tu vois, mais dans la globalité, j'ai en tout cas jamais aussi bien dormi dans ma vie que depuis que je fais mon deuil. Bah justement, ma mère est devenue très bavarde sur le moment par rapport à ses parents qu'elle a perdus, donc mon grand-père qui s'est fait faucher quand j'avais 4 ans et demi, et ma grand-mère qui est décédée il y a maintenant 3 ans et demi. Et ma mère est devenue très bavarde tout de suite pendant un court laps de temps, et après plus rien. Ah oui, ça me fait penser à un fameux moment très important et très marquant, ça a été quand on a déménagé l'appartement de ma grand-mère. Ça a forcément été très marquant. On a retrouvé plein de choses. Et là aussi, ma mère, elle a un peu plus parlé. Mais là, tu vois, elle n'en parle pas. Elle n'en parle plus. Mon père n'en parle pas. Pas beaucoup. Quelques fois. Ma sœur et mon frère n'en parlent jamais. Et ça a été un gros choc. Et au début, je l'ai vécu comme une injustice. Parce que j'avais l'impression qu'ils ne ressentaient rien. Mon frère, j'avais l'impression qu'il ressentait rien. Ma sœur, j'avais l'impression que c'était tellement tellement insignifiant qu'au début j'avais eu l'impression j'étais en colère en fait contre eux. Je leur ai dit mais pourquoi vous ressentez rien? Et ma sœur, qui a 9 ans de moins que moi, elle m'a dit cette phrase hyper mature et hyper vraie qui moi m'a complètement arrêtée dans cet élan de colère. Elle m'a dit mais Sarah, on gère pas tous le deuil de la même manière. Et c'est une maturité tellement intense, je l'ai pris comme une grosse baffe. Et je me souviens de lui avoir dit ouais, t'as raison, je suis désolée, j'aurais pas dû m'emporter. Et c'est à ce moment-là, je pense, que j'ai compris que c'était tellement personnel, un deuil. Que c'était profondément intime. Et après, mon frère ne s'est jamais vraiment exprimé. Bon, après, mon frère n'est pas non plus un grand bavard. Mais il s'est jamais vraiment exprimé sur ce deuil-là en particulier. Et puis, ma sœur, une fois, m'a dit, tu sais, Sarah, t'es celle d'entre nous qui l'a connue le plus longtemps. Elle était beaucoup plus proche de toi, avec toi c'était spécial. Et ça, je l'ai aussi vécu comme une injustice. Parce que au lieu d'être presque reconnaissante, enfin, je le suis, hein, mais au lieu d'être presque heureuse de cette relation très spéciale qu'on avait, elle et moi, je pense que j'aurais voulu qu'ils aient la relation très spéciale qu'elle avait avec moi, eux aussi avec elle. Et en fait, j'ai pensé qu'à eux, à ce moment-là. Je me suis dit, mais est-ce que c'est juste? Et en même temps, je suis née en première. C'est pas... moi, j'y peux rien. Et elle a toujours fait preuve d'une équité envers nous trois qui était sans faille. Mais c'est vrai qu'elle et moi, on avait beaucoup plus de passions communes, beaucoup plus de points communs, beaucoup plus de divergences aussi, forcément. Et beaucoup plus de vécu ensemble. J'étais sa première petite fille, je l'ai connue pendant 21 ans de ma vie. Forcément, j'avais vécu plus de choses avec elle. Mais c'est vrai que j'ai vraiment senti l'injustice. Mais peut-être une injustice qui n'a pas lieu d'être, parce que peut-être qu'eux le vivent pas du tout comme ça. Et j'ai pas l'impression qu'ils le vivent comme ça. En tout cas, ils me l'ont pas exprimé. En tout cas, ma sœur, qui a été la seule à un peu en parler, ne l'a pas exprimé. Mais moi, ça m'a vraiment fait mal. Je me suis dit, mais j'aurais voulu qu'ils vivent la même chose que moi. Peut-être parce que j'aurais voulu qu'ils ressentent la même douleur que moi, égoïstement, parce que je comprenais pas pourquoi j'étais la seule non plus à ressentir ça. Et je pense que c'est un mélange de plein de choses. Et j'avais l'impression d'être pas comprise dans ma douleur. J'avais l'impression que j'avais pas le droit de crier ma douleur, que j'avais pas le droit d'exprimer à quel point j'étais triste, que j'avais pas le droit de pleurer, que j'avais pas le droit d'être en colère. Alors du coup, je comprenais pas pourquoi eux l'étaient pas. Je sais que ça a profondément marqué mes autres grands-parents du côté de mon père, que j'aime aussi plus que tout, et pour des choses très différentes, mais exactement comme mes autres grands-parents du côté de ma mère, une complète extension de mes parents, et des personnes qui font partie des personnes les plus importantes de toute ma vie, qui ont contribué à notre éducation autant que ma grand-mère et mon grand-père qui sont décédés. Et je sais que ça leur a fait un grand choc parce que ils ont beaucoup invité ma grand-mère. Elle était invitée chaque week-end chez eux. Ils ont beaucoup parlé avec elle. Ils avaient aussi beaucoup de divergences de points de vue parce que, bah, voilà, c'est la vie et les gens sont différents, notamment en politique. Mais ouais, ça leur a fait un très gros choc aussi. Et sinon, de manière générale, le deuil, comment il est perçu? J'ai l'impression que mon père n'y est pas préparé parce qu'il a encore ses deux parents. Qu'il n'a pas vraiment perdu de gens très proches, en tout cas il m'en a pas parlé. Et j'ai l'impression que ça a rendu ma mère un peu insensible. Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est encore une fois, c'est ma perception. Je me souviens juste que ma mère une fois a dit « Maintenant j'ai plus personne ». Et ça a été aussi dur à entendre. Enfin, maintenant j'ai plus personne, maintenant j'ai plus de parents. Je suis orpheline. Du côté de mon père, du coup lui, j'ai un peu cette impression que peut-être il sait pas et... Ou alors il en parle pas. J'ai l'impression que c'est un très grand sensible, mon père. Et qu'il risque d'être détruit par la mort d'un proche. Et mon grand-père paternel, je sais pas. Il en parle pas beaucoup. Je sais qu'il a un âge où il perd ses amis. Et ça lui fait toujours quelque chose, c'est quelque chose qui est très difficile, et en même temps je crois qu'il l'accepte avec énormément de, comme si c'était quelque chose de la vie. Il accepte comme si ça faisait partie de la vie, en fait. C'est comme ça. Et ma grand-mère, bon, dans ma famille, ils ont tous une histoire très compliquée, notamment avec tous les événements du XXe siècle qu'on connaît. Mais ma grand-mère, elle a vécu en Algérie, elle a dû quitter l'Algérie. Et elle, ça a été un choc et un deuil terrible aussi. Et je sais qu'elle en pleure quasiment à chaque fois. Quand elle parle de sa mère, elle est très émue, elle pleure très souvent. Et c'est la première adulte que j'ai vue pleurer de ma vie. Et c'est la première fois que je sais que quand j'étais petite, je m'étais dit « Oh, les adultes, ils ont aussi le droit de pleurer. » Au début, je me suis demandé si c'était le cas. Est-ce qu'elle avait le droit de faire ça? Et mais parce que on vit dans une société où on explique que les larmes, c'est la faiblesse, donc c'était très compliqué. Heureusement, aujourd'hui, je pense plus ça, hein, mais et surtout, je ne suis plus éduquée comme ça et je compte vraiment pas m'entourer de gens qui pensent comme ça. Et si plus tard j'ai des enfants, ne pas les éduquer comme ça. Mais ouais, au début, c'était très choquant pour moi de l'avoir pleuré. Et puis après, je l'ai accepté. Je l'ai accepté très rapidement parce que je sentais que c'était profond, ça avait besoin de sortir. Et voilà, quand elle parle de l'Algérie, c'est très douloureux. Ça a été aussi une forme de deuil. C'était le deuil de toute sa vie, d'avant, de toute son enfance. Elle est partie, elle est partie en 62 quand ça a commencé, donc elle est partie, elle avait 22 ans. Non, elle avait 21 ans, elle est de fin d'année. Donc elle avait l'âge que j'avais quand j'ai perdu ma grand-mère. Et si moi j'ai eu une vie extrêmement difficile, elle a perdu toute sa vie. Elle a perdu son pays, elle a du tout recommencé à zéro avec sa famille en France, où elle connaissait pas grand monde et où elle a dû se battre pour rester et se battre aussi contre les très mauvaises gens qui disaient retournez chez vous alors qu'ils avaient plus de chez eux. Et moi je la respecte profondément, ma grand-mère, pour se donner le droit de l'exprimer comme ça. J'ai tellement de tendresse et de compréhension pour elle et pour ce qu'elle exprime très silencieusement parfois quand elle en pleure. Donc voilà, il y a des formes très différentes de gestion du deuil autour de moi. Bah, mon premier conseil, c'est si possible trouver un groupe de parole. Je crois qu'on minimise énormément les bienfaits. Alors attendez, je vais nuancer parce que si besoin de parler vraiment, de s'exprimer, je pense que c'est vraiment une solution à envisager et à envisager très fortement. Peut-être que ça va pas correspondre, hein, mais rien que le fait d'essayer. Parce que, en plus, c'est tellement loin des clichés qu'on s'imagine où on est, je sais pas, 10 en rond dans une salle et mal à l'aise et où tout le monde s'appelle par son prénom, et c'est pas tout à fait comme ça, même si ça y ressemble et c'est un peu confus, mais si ce genre de groupe existe, c'est pour accompagner, c'est pour aider, c'est pour écouter et c'est aussi pour conseiller. Et je crois que si une personne qui est en première phase de deuil ressent le besoin d'en parler, au moins envisager d'essayer le groupe de parole, et quand on se sent prêt aussi, parce que moi je me souviens très bien avoir eu un rendez-vous avec Catherine et qu'elle m'avait proposé 3 jours après la première séance, et je me souviens lui avoir dit non, que c'était trop tôt. Pourtant j'avais vraiment très envie, mais je lui ai dit non, c'est trop tôt, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi tôt, je crois que j'ai besoin encore un peu de temps. Et finalement je suis venue le mois d'après et j'ai bien fait parce que c'était à mon rythme et j'avais tellement besoin d'en parler, et pourtant ben, à la première proposition j'ai dit non, mais parce que je me suis écoutée. Du coup, peut-être que le premier conseil qui viendrait, je veux pas faire de hiérarchie de conseils, mais s'écouter. S'écouter soi. De quoi tu as besoin, de quoi tu as envie, de quoi tu n'as pas besoin, de quoi tu n'as pas envie, qu'est-ce que tu ne veux pas dans ce processus de deuil, qu'est-ce que tu ne veux pas entendre, qu'est-ce que tu aurais envie d'entendre, de qui tu as envie de t'entourer, qu'est-ce que tu as envie de faire comme activité qui te ferait du bien, qui te ferait peut-être penser à la personne qui est décédée, qui te ferait justement peut-être ne pas penser à la personne qui est décédée. Et j'aime pas hiérarchiser, mais peut-être que le conseil numéro 1, c'est vraiment s'écouter, soi. Et prendre le temps de s'écouter. Parce que c'est pas en une fois qu'on sait exactement tout ce dont on a besoin. Moi, encore aujourd'hui, je me rends compte de ce dont j'ai besoin par rapport aux différentes situations de deuil. Parfois, j'ai envie qu'on me laisse tranquille, parfois j'ai envie d'en parler. Là, je me suis quasiment pas exprimée sur le deuil depuis très longtemps. Et là, tu vois, je me retrouve à faire un podcast de... sur finalement un sujet où il y a énormément à dire, et j'en avais profondément envie. J'ai profondément envie d'être là et de partager ça, et je me suis écoutée. Donc s'écouter, envisager peut-être les groupes de parole si besoin de s'exprimer, peut-être envisager de faire des choses qu'on aurait voulu faire et qu'on n'a pas osé. Je pense notamment à des activités. Voilà, mettons que t'as toujours eu envie de danser la salsa, que t'as jamais osé. Peut-être que c'est bon le bon moment pour s'essayer à ça. C'est un exemple comme ça, hein, mais ça dépend comment la personne envisage aussi le deuil et ça dépend aussi du lien que la personne a avec le ou la décédée, mais parfois se rappeler la personne, si la personne a compté pour nous, hein, bien sûr, hein, parce que j'imagine qu'il y a tellement de deuils différents et qu'il y a parfois des gens qui décèdent, que le deuil est profondément marquant, et pourtant peut-être que cette personne ça fait beaucoup de mal. Je pense qu'il y a toute forme de deuil qui existe vraiment, je veux vraiment les inclure toutes, mais peut-être que là je parle de ma propre expérience, quand la personne on l'a profondément aimée, je sais que moi ça m'a fait du bien de faire des choses qui me l'a rappelé, ou de voir des choses qui me l'a rappelé, de lire des choses qui me l'a rappelé. Ma grand-mère a appris une habitude qu'au début je ne comprenais pas et qu'aujourd'hui je pratique à fond les ballons, c'est d'écrire dans ses bouquins. Et quand j'ai commencé à lire les livres qu'elle lisait et que je voyais ses petits commentaires, les coquilles qu'elle relevait, les analyses qu'elle faisait de certaines phrases ou de certains passages, ben, j'avais l'impression qu'elle lisait un peu au-dessus de mon épaule. Et ça me faisait du bien. Au final, je pense qu'il y a autant de conseils que de personnes. Il faut se faire du bien à soi. Et il faut pas précipiter les choses. Si tu sens que c'est pas le moment de faire certaines choses, d'aller en parler, d'aller au groupe de parole, de faire une activité que tu n'osais pas et qui te dirait bien mais que c'est pas encore le moment, bah faut pas le faire. Je pense que vraiment le mot-clé c'est s'écouter soi. Et prendre le temps. Prendre le temps d'être triste, prendre le temps d'être anéanti, prendre le temps d'être en colère. Toutes ces phases en fait du deuil, qui sont aujourd'hui un peu mieux connues, je pense que c'est important de prendre le temps de les vivre, parce que si on est pressé, on risque de griller des étapes, et il n'y a pas de bonnes étapes, de mauvaises étapes. Il y a les étapes du deuil, et il y en a que tu vivras pas plus ou moins longtemps. Et moi la colère elle a été très longue, et au final aujourd'hui je me rends compte que l'acceptation elle l'est encore plus. C'est plutôt chouette de contrebalancer avec l'acceptation, et en même temps je regrette pas du tout ma colère. Je pense aussi qu'il faut pas forcément regretter ce qu'on ressent. C'est important, c'est très important de pas regretter ce qu'on ressent, parce que si on ressent les choses comme ça, c'est que c'est pour une raison. De toute manière on sera tous complètement différents face au deuil et face à la mort. Tous très 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 différents, et je sais pas, c'est une vaste question. C'est une question qui est, j'ai l'impression que c'est la question la plus difficile de tout, de toutes. Non, ouais, peut-être le mot de la fin, ça sera s'écouter et prendre le temps. Prendre le temps de ressentir et d'être soi-même.